Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore. Bonjour et bienvenue à cette première épisode de la série sur l'évaluation. On traite de sujets en lien avec les pratiques d'évaluation, les pratiques pédagogiques d'évaluation, tout ce qui a rapport avec l'Inukshuk. Et aujourd'hui, on parle davantage des résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation. Alors, mesdames, je vous pose la question. Quelle est la différence entre un résultat d'apprentissage et les critères d'évaluation?
Je pense que ça, c'est vraiment une excellente question pour commencer. Puis... d'après ce que moi j'ai compris, c'est que les résultats d'apprentissage, c'est vraiment notre intention pédagogique. Qu'est-ce qu'on veut que l'élève apprenne? Les critères de réussite, ce sont vraiment qu'est-ce qu'on devrait observer, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir. Ah, cet élève-là a fait ci, alors donc il a compris qu'est-ce qu'on a enseigné. Alors, je peux commencer la discussion avec ça.
J'ai entendu que tu as dit critères de réussite. C'est comme ça aussi que moi, je les appelle. Les documents des ministères parlent de critères d'évaluation, mais entre critères d'évaluation et critères de réussite, il n'y a aucune différence.
Non, et puis je pense qu'on préfère le terme critères de réussite dans nos salles de classe parce que c'est moins stressant pour l'élève.
Exactement, exactement. Eux autres, ils vont viser pour la réussite et non pas viser pour une évaluation. Ce qui veut pas dire grand chose. Puis on a, tu sais, souvent on a comme une connotation un petit peu négative à l'évaluation. Eux autres, ils sont tellement stressés des fois.
C'est ça. Alors, moi, pour les RA, je les vois comme le produit qu'on veut que l'élève produise ou la réalisation qu'il soit capable de faire. Puis les critères, c'est si je le fais comme il faut, si je le réussis, ça a l'air de quoi?
Excellent, j'aime ça.
Est-ce que je peux même faire un retour en arrière en disant, est-ce que ce serait possible qu'il y ait certains de notre public qui ne connaît pas c'est quoi l'Inukshuk? Est-ce que c'est possible?
J'imagine que oui.
Tout à fait. L'Inukshuk, en fait, s'appelle la pratique de...
C'est une graphique qui représente le processus de l'évaluation.
Oui, et ça s'appelle le titre, c'est la pratique pédagogique en lien avec l'évaluation du service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage.
Et les résultats d'apprentissage et les critères de réussite sont les bases, sont les deux pieds ou jambes de l'Inukshuk.
Absolument, c'est les piliers pour que tout le reste arrive. En parlant des RA, les résultats d'apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour les formuler?
Je pense qu'à l'élémentaire, ce que je vois le plus souvent, c'est une phrase qui commence par « je ». Et c'est « je », par exemple, « j'écris un récit avec dialogue ».
« J » et « je » ici se comparent. C'est une blague, parce que tu as dit ça commence par « je », puis ton critère commence par « j'ai ».
C'est la même chose, en fait.
Non, je sais.
Non. Est-ce que, mais si on fait un petit peu le pont entre l'élémentaire, est-ce que ce serait différent au secondaire? Parce que, est-ce qu'eux aussi, ils pourraient pas en profiter d'avoir ces phrases-là écrites sous la forme de « je fais » ou « j'ai quelque chose »?
Oui, je pense pas que c'est nécessaire que ce soit formulé de même, mais je pense qu'ils pourraient. Puis je suis convaincue qu'avoir des résultats d'apprentissage puis des critères de réussite, c'est important pour tout le monde.
Absolument. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que en autant que l'élève comprenne qu'est-ce qu'il ou elle devrait faire, je pense que cette étape-là a été réussie.
C'est ça. Et puis, on dit toujours que c'est important de ne pas utiliser du jargon. C'est important de ne pas utiliser, la plupart du temps, les mots qui viennent directement du curriculum. On veut que ce soit écrit dans un langage que l'élève va comprendre.
Trois mots clés. Concis, clair et avec le langage de l'élève.
Absolument. Oui. Je pense que c'est vraiment un bon point de départ.
OK, mais là, on sait comment formuler les résultats d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour rédiger les critères de réussite? Est-ce qu'on le fait pareil? Est-ce qu'on le fait différemment?
Est-ce que si, là encore une autre fois, je m'en vais dans ma petite banque de mon expérience, mes années d'expérience, est-ce que c'est cette étape-là qu'on peut le faire en collaboration avec les élèves? Si vous pouvez me corriger, mais c'est ça, j'ai en train de me poser la question.
C'est exactement ça. Puis, c'est important de les avoir à côté de toi parce que toi, tu sais exactement ce que tu veux qu'ils ressortent avec les élèves.
C'est vrai.
Puis, comme on avait mentionné lorsqu'on parlait avant de commencer à enregistrer le balado aujourd'hui, il est important aussi d'aligner ton enseignement avec les critères que tu veux souligner avec les élèves. Par exemple, si ma classe écrit un texte donné, comme, disons, le conte en quatrième année, peut-être que ce que moi je vais leur enseigner à travers le conte est différent de ce que toi tu enseignerais à ta classe, dépendant des besoins. Alors, un critère dans ma classe pourrait être à bien faire l'accord entre le sujet et le verbe, tandis que dans ta classe, ça pourrait être utiliser des expressions figurées.
Alors, donc, ce que j'ai compris, c'est que l'intention, alors, donc, le résultat d'apprentissage peut être pareil, mais que les critères de réussite peuvent être différents.
Oui. Je pense que c'est toujours important que l'enseignant les anticipe, comme Jen a dit, de voir, OK, où est-ce que je veux les amener, mais les élèves aussi, dans leur parcours, vont peut-être ajouter, reformuler, de façon à ce que ça devienne leur critère pour leur réussite.
Absolument. Puis c'est ça, justement, j'ai pensé à la même chose parce que chaque élève est quand même différent. Comment est-ce qu'on veut que ce soit? Est-ce qu'il faut que ça soit assez général pour qu'on peut l'adapter à chaque élève? Ou comment est-ce que vous voyez ça?
Bien, dans certaines références, dans certaines productions littéraire, là, dans certaines écrits. Là,
Les ressources.
Dans les ressources. On parle de construire les critères de réussite avec un tableau en T. Alors, le critère et le détail. Le détail ne va pas être évalué, mais le détail permet d'habiller le critère. Par exemple, si je veux que, et là, pour les exemples pour les plus jeunes, je veux bien utiliser la ponctuation dans ma phrase, bien, dans les détails, je pourrais aller écrire la majuscule et le point à titre de référence pour être capable d'arriver
au critère. Je comprends. OK.
Je pense qu'un autre point qu'il faudrait amener, c'est que les gens se demandent quand est-ce que j'établis les critères de réussite avec mes élèves. Et ça prend un certain enseignement avant de pouvoir le faire.
Oui.
Alors, si je dis à mes élèves, encore une fois l'exemple du conte, OK, on va rédiger un conte, c'est notre résultat d'apprentissage, mais je n'ai pas encore fait d'enseignement. Comment est-ce que mes élèves savent c'est quoi un bon conte qui est bien rédigé?
Absolument.
Alors, il faut un certain enseignement, puis il faut avoir vu de bons exemples de contes afin de savoir à quoi est-ce que ça ressemble.
Puis d'essayer, comme par exemple, au début même, avant d'établir tout ça, on va lire des contes, des bons exemples, puis après ça, essayer de leur poser la question, qu'est-ce que vous avez vu qui a été bien réussi?
Mm-hmm. Puis qu'est-ce que l'auteur a fait?
Qu'est-ce que l'auteur a fait? Évidemment, ça, on peut l'adapter selon l'âge, selon le niveau d'études. Puis c'est en faisant ça, avec notre liste personnelle qu'on a à notre disposition, c'est là qu'on peut jumeler ces deux ensemble pour pouvoir faire le tableau hanté.
Oui. Et le tableau hanté ou les critères de réussite vont permettre à l'enfant aussi d'avoir un jugement éclairé sur sa production pour voir est-ce que c'est un travail de qualité, si oui, pourquoi. Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que je remette ou que je produise un travail de qualité.
Et on peut toujours retourner aux critères et en ajouter d'autres.
Ah, tout à fait.
Oui.
Ah oui, ça devrait être construit. Ah oui, tout à fait.
Ça devrait être... On devrait être capable de réajuster, de voir s'il y a des choses qui fonctionnent, on va les garder. S'il manque de quoi, on peut en réajouter.
C'est ça.
Et surtout, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on peut l'enlever aussi.
Mais aussi en fonction par rapport au parcours que l'enfant va faire. La première fois qu'il va rédiger un compte, je pense pas qu'il va avoir les mêmes critères dans sa poche que la 18e fois où il produit un compte. On va lui en demander davantage, d'aller plus loin, par exemple, d'ajouter des adjectifs, en fonction aussi de qu'est-ce qui est à l'apprentissage au moment. Autre question, mesdames. Je fais ça quand? Les résultats d'apprentissage et les critères de réussite. Est-ce que chaque période de chaque journée devrait avoir un temps pour établir le résultat d'apprentissage et les critères de réussite?
Bien, à ce moment-là, si tu fais ça à chaque jour, à chaque période, mais tu n'auras pas de temps d'enseigner. tu as comme un bloc de, disons par exemple, un bloc de 90 minutes ou 100 minutes. Mais après avoir fait ça, tu as déjà pris 30 minutes de ton temps. Fait que,
on fait ça quand?
Fait que je peux pas faire ça.
Moi, je dirais que c'est plutôt pour, disons, un concept en mathématiques ou un projet ou un texte à rédiger dans un autre sujet.
Alors, si je comprends bien, les résultats d'apprentissage et les critères de réussite devraient être en lien avec une situation d'apprentissage et non pas une période d'enseignement.
Série de leçons, une séquence.
Oui. Là, j'utilise probablement pas le bon mot, mais un thème. Est-ce que
thème, qu'on c'est peut, définitivement c'est pas un bon mot.
Non.
Surtout si on enseigne en maternelle jardin.
Non, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu vois que vu qu'on a comme des vécus vraiment différents, fait que là, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble.
Alors, par thème, je pense que ce que tu veux dire, c'est situation d'apprentissage.
Oui, je pense que c'est plutôt ça.
Une série de leçons avec un lien.
Ouais.
Un lien commun ou une mire, une cible commune.
Absolument.
Tout à fait. Je recule en arrière. Et là, je viens de faire un pléonasme. Je recule.
Tu recules.
À quoi ça sert, les résultats d'apprentissage et les critères de réussite? Pourquoi est-ce que je dois prendre du temps précieux dans ma planification de situation d'apprentissage pour établir ça?
Je sais.
OK.
Moi, quand je parle aux enseignants, j'utilise souvent l'exemple de mon fils, mon plus grand, qui n'aimait pas trop lire ni écrire quand il était à l'élémentaire. Alors, un enfant qui lit pas beaucoup n'a pas une idée en tête de comment quelque chose devrait être structuré ou ça veut dire quoi si tu lui demandes d'écrire un texte de qualité. Il sait pas qu'est-ce que ça veut dire.
C'est ça.
Alors, surtout pour nos élèves en difficulté, mais pour tous les élèves, il est important de vraiment cerner le produit final qu'on veut, de vraiment détailler qu'est-ce qu'on veut trouver, qu'est-ce qu'on veut voir dans le texte ou dans le projet pour que ce soit réussi. Je dirais même que lorsqu'il était en 7e et 8e, il a eu la même enseignante 2 années de suite et ça a complètement changé sa scolarité parce qu'elle était vraiment forte en évaluation. Puis il a pu rédiger son texte ou faire finir son projet puis le comparer au tableau hanté pour dire « OK, j'ai fait ça. Oh, voici deux choses qui manquent. » Il retournait, il révisait son texte et là, il pouvait améliorer sa note ou...
Alors, est-ce que tu dirais que les RA et les critères de réussite ont permis à guider son apprentissage et à l'engager davantage?
Absolument, parce qu'un élève qui a de la difficulté veut réussir, tous les élèves veulent réussir, mais s'il n'y a pas une idée claire de c'est quoi la réussite, ça va avoir l'air de quoi mon recueil de poésie ou mon conte ou quoi que ce soit, si je l'ai bien fait, ben il n'a rien pour le guider. Il travaille dans le vide.
Et ça, bon, ça, c'est un exemple plutôt personnel. Si dans mon livre de recettes, il n'y a pas de photo de qu'est-ce que ça va avoir l'air, je n'embarque pas. J'ai besoin de savoir de ce que je vais papoter, de quoi ça va avoir l'air. Et après ça, je sais plus ou moins comment m'orienter pour y arriver.
Puis je pense que ça c'est vraiment, j'allais dire c'est une tendance, mais c'est parce que si tu regardes des livres de recettes d'il y a très, très, très longtemps, il n'y a jamais eu de photos. Mais là, récemment, comme tu les livres de recettes qu'on achète maintenant, je pense que la plupart des personnes cherchent la photo. Je pense que en vraie vie, puis...
Tu veux savoir de quoi savoir. Ça va avoir de l'air quand ça va être fini, puis je vais pouvoir prendre ce que moi j'ai fait et le mettre en relation avec ce que ça devait être et voir...
Pinterest fail ou
moi,
Pinterest success ou Pinterest
fail? Je suis un niveau 3, je suis un niveau 2, peu importe, mais j'ai une idée de là où je m'en vais.
Mm-hmm. Alors, en fait, même dans notre vie, on devrait, tu sais, on établit nos critères de réussite aussi.
Oh, c'est ça. Si tu commences un nouvel emploi puis tu sais pas comme qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour bien réussir, ben.
Mm-hmm.
C'est déstabilisant.
Oui, puis à différents niveaux aussi, parce que si je pars au supermarché, et que je reviens avec 3 choses sur 10 de ma liste, je sais que mon voyage était plus ou moins efficace.
Oui.
Mais en lien aussi avec la question que tu as posée, Vicky, à propos de comment est-ce qu'on pourrait ajuster les critères pour les élèves qui ont plus de besoins que les autres, je pense pas qu'il faut le changer ou le modifier, mais c'est lorsqu'on donne une rétroaction à l'élève, puis on va parler plus tard des rétroactions descriptives, tu sais, on va leur donner une chose à la fois.
Non, c'est
puis ça, peut-être que, tu sais, un élève va finir par avoir répondu à 7 critères sur les 10, et peut-être qu'un autre, ce serait 5 ou 10 ou encore plus loin.
Oui. C'est important de savoir aussi que dans le faire croître le succès, le document parle qu'un niveau 3, c'est une atteinte de plus ou moins 75 % des critères.
C'est justement ce que j'allais poser. Si on a 10 critères, combien de critères est-ce que l'élève devrait réussir?
Selon moi, l'enfant qui réussit les 10 critères sur 10 a complété son travail,
ouais,
et qui a atteint chacun des critères avec une certaine efficacité puis une qualité.
Ça, c'est
un niveau 4.
Oui.
Parce qu'il a atteint 100 % des critères qu'on lui a établis.
Bien, ça veut dire aussi que nos critères doivent être assez ambitieux.
Absolument. Les critères doivent être bien détaillés, doivent être précis aussi, parce que il faut que l'enfant sache où aller, quoi faire pour se rendre jusque-là.
Puis je pense que ça va être encore plus important pour les niveaux élémentaires, que des fois, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est vraiment réaliste, qu'ils peuvent voir directement. Comme dans l'exemple qu'on avait donné un petit peu plus tôt, c'est si j'écris avec les bons points de ponctuation, je devrais faire une majuscule et un point. Fait que ça, c'est quelque chose qu'eux autres, ils peuvent voir, ils peuvent les identifier pour dire « Ah, vu que j'ai ça à travers mon texte, là, j'ai réussi
Parce que tu dis un enfant de 5 ou 6 ans en première année, utilise bien les signes de ponctuation. Soyons réalistes.
Non.
Et je pense que les RA et les CR sont pas seulement utiles du point de vue de l'élève, mais il nous facilite la vie aussi.
Absolument, parce que ça structure tellement ton enseignement. Ça veut pas dire que tu vas dire « Aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. » Mais sauf que, rendu à un certain point de ton enseignement, tu vas dire « Est-ce que moi, j'ai tout enseigné? »
Fait que, mais dans le sens aussi où ça planifie ton évaluation, parce que tu sais exactement où tu vas être.
Mm-hmm. Oui.
Et parce que tu planifies ton évaluation, tu es en train de faire, et ça va être discuté dans une autre série, mais de la planification à rebours.
Absolument, oui.
Et quand tu fais la rétroaction à l'élève, si tu te bases sur les critères, c'est beaucoup plus facile de donner cette rétroaction et d'évaluer la tâche.
Oui.
Tout à fait. Avant de passer à autre chose, comment est-ce qu'on partage les résultats d'apprentissage et les critères de réussite avec les élèves?
Lorsque tu dis partager, est-ce que ça veut dire
pour être afficher, sûr qu'un enfant
avoir une copie à tout le monde? Comment, ou est-ce que c'est n'importe quelle méthode? N'importe quelle méthode. OK. Moi, je dis oui. Pourquoi tu le partagerais?
Non. Ma question, c'est pas où. C'est comment est-ce que
comment? OK, j'ai compris. Est-ce qu'on le fait? Mais je suis comme dans ma tête. C'est clair qu'on partage. Sinon, comment est-ce que... C'est quoi la recette que l'enfant devrait utiliser?
On établit des critères, mais pour avoir un A, il faut qu'il les devine.
On les cache.
Mais c'est ça. La raison pour laquelle on avait posé la question, c'est que parfois, on crée les résultats d'apprentissage, on établit les critères ensemble avec les élèves, mais c'est sur le TBI. Alors, c'est pas tout le temps visible.
C'est
juste quand c'est projeté.
Oui.
Alors, en fonction de... Si on travaille sur la situation d'apprentissage ou, je sais pas moi, le résultat d'apprentissage est d'écrire un poème, à tout moment où on travaille sur le poème, les résultats d'apprentissage et les critères de réussite devraient être affichés. Mm-hmm.
Oui. Et si on est à la maison, si c'est un devoir,
ça devrait être quelque part
avant qu'une feuille
dans le cahier devoir ou l'internet.
Oui, c'est ça. Oui, de le partager avec en courriel avec les élèves ou n'importe quelle façon. Ouais.
Et est-ce qu'on partage ça avec les parents aussi?
Je pense que oui.
Pour que eux autres aussi, quand ils voient qu'il y a une rétroaction, pour vraiment savoir le pourquoi, parce que des fois ils vont voir une rétroaction qui est fournie par l'enseignant. Et ils vont dire, mais pourquoi est-ce que tu as écrit X, Y, Z? Mais si toi, il y avait les critères, puis les résultats d'apprentissage, puis les critères de réussite qui sont déjà clairs, eux autres, ils vont être capables de mettre les deux ensemble pour avoir une image qui est complète de qu'est-ce que l'enseignant essaie de faire.
Complètement d'accord.
Alors, oui.
Ouais, mais je pense que de façon générale, les parents vont pas poser des questions tant sur la rétroaction qui a été donnée à un travail, mais sur la note. Mais quand la note, c'est généralement l'évaluation de l'apprentissage. C'est quand on a terminé, on met une note. Alors, je sais pas, moi, le parent, il était au courant de rien. Et là, Coco revient avec un C-.
Ouais.
Maman, papa vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais si, dans les travaux qui ont été envoyés à la maison, il y a eu la rétroaction.
Exactement.
Qui, en lien directement avec les critères de réussite, le parent n'aura pas une surprise rentrée à la maison. Il va savoir que sur les X nombre de critères qui ont été demandé, mon enfant en a fait deux par.
C'est exactement ça. C'est exactement
Je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant d'être transparent et de garder les parents à jour avec un portfolio en ligne ou un autre moyen de communiquer. Parce que je sais que c'est pas tous les enfants qui arrivent à la maison puis qui partagent tout avec les parents.
Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui?
Rien. Oui, j'ai toujours dit à mes enfants, ton enseignant devrait avoir honte.
Tu sais, je pense que l'information qu'on fournit, c'est toujours est extrêmement puissant. Tu sais, si on garde les parents informés à travers tout le processus, à la fin, ça va être moins une surprise. Comme, tu sais, je me souviens qu'on nous a proposé, tu sais, si jamais les parents viennent te voir pour te demander pourquoi est-ce que c'est X, puis là, la réponse, je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais en formation, c'est que, mais tu montres l'exemple d'un travail qui était bien réussi, puis tu montres l'exemple de cet enfant-là. Mais si on avait déjà la liste des RA et les CA, on n'aura même pas besoin de faire ça.
Non, mais là, ça devient qu'au lieu de comparer l'enfant à un autre enfant, on compare l'enfant avec les attentes de cet
Exactement,
enfant.
ce qui est objectif. Ouais.
J'aime ça.
Alors, on n'aura même pas besoin de faire ça si tout le monde est informé, si tout le monde est vraiment là-dedans dans le processus. Ouais.
OK. Alors là, on a parlé de résultats d'apprentissage et de critères d'évaluation. Je vous pose une question. Et là, c'est une question surprise sur le thème de l'évaluation. OK? Si vous aviez le choix entre une évaluation toute faite qui est reçue de l'Internet là, ou d'une ressource quelconque, ou une évaluation que vous créez avec vos collègues, vous choisissez quoi? C'est une question piège, mesdames.
Que j'ai créée moi-même avec mes collègues.
Pourquoi?
Mais est-ce que Jeanne est d'accord?
Ah oui, je dis pas qu'il y a pas de bonnes idées à l'internet qui pourraient être adaptées à ta classe ou qui seraient.
La décoration de mon salon vous dit qu'il y a d'excellentes idées sur l'internet.
Exactement. Et il y a rien qui dit qu'une autre classe pourrait pas avoir un profil très très similaire et des intérêts très très similaires au vôtre. Mais en même temps, on s'est parlé dernièrement de l'évaluation convergente et de l'importance dans les écoles d'avoir des évaluations qui se ressemblent beaucoup dans les salles de classe au même niveau.
Ça sert à quoi d'avoir des évaluations qui se ressemblent?
Mais ça sert à la responsabilité collective dans l'école.
J'adore ça.
Harmonisation,
mais ça me permet aussi de savoir que chez Vicky, ses élèves en deuxième année ont performé hors pair. Tous ces élèves ont atteint la norme et tout. Dans ma classe, rien du tout. Mais je peux aller voir Vicky pour aller lui dire, Vicky, qu'est-ce que t'as fait pour que ça fonctionne?
Ouais.
Comment est-ce que moi, au niveau de ma pratique réflective, là, qu'est-ce que je peux changer, adapter, modifier dans ma pratique pour que mes élèves... Parce que tes élèves et mes élèves viennent pas de deux planètes différentes, là. C'est des élèves qui ont le même âge, qui ont le même bagage, plus ou moins, qui ont sensiblement les mêmes connaissances antérieures. Alors, parce qu'ils ont progressé là, ensemble. Alors, ça nous permet ça.
Oui,
c'est ça. Puis, on nous avait dit dernièrement, on a eu une conférencier qui nous avait parlé du fait que s'il y a un élève en difficulté dans n'importe quelle classe dans l'école, les mêmes mesures devraient être déclenchées pour aider cet enfant. Alors que mon jeune soit dans la classe à Mylène ou dans la classe à Vicky, dès qu'on voit qu'il a un délai en lecture, bien, ça devrait être les mêmes réponses les mêmes interventions qui se font.
Oui, c'est ça. Puis en revenant un petit peu, encore une autre fois, même si la tâche est pareille, c'est pas grave parce qu'on a des critères de réussite différents dans chacun d'entre nous parce que notre intention est pareille, mais qu'est-ce que nous, comme enseignants, on observe peut être différent. Fait que même si la tâche est pareille, partagée avec tes collègues, Ouais. Ça peut être servi à tous.
Puis je te dirais que les critères de réussite vont peut-être changer un petit peu, mais parce que vous les avez anticipés en équipe,
c'est exactement
il y a de grandes chances que ça devienne une prophétie auto...
auto-réalisable.
Auto-réalisable. Et que, oh, finalement, les critères de réussite se ressemblent énormément et les prédictions que les enseignants ont faites sur la réussite des élèves soient justes.
Fait que c'est vraiment un processus qui est comme cyclique, là. C'est,
tourne,
c'est, qui tourne.
Qui tourne,
ouais.
Qui n'arrête jamais.
Ce qui Non, ça va arrêter le mois de juin. Non.
Et finalement, j'ai une question pour toi, Mylène.
Pourquoi moi?
Ouh!
Oui, pas. Vas-y.
Si les gens aimeraient avoir plus d'informations sur l'emploi des résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation dans leur salle de classe, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Je leur conseillerais d'aller sur la page Facebook de toute la classe. Parce qu'on va aller déposer là les fascicules du CFORP, certains ouvrages dont de Anne Davis et de Damon Cooper qui parlent de l'évaluation. On va aller déposer des références pour que vous puissiez aller bouquiner, fureter, explorer ce sur quoi on vient tout juste de discuter. Est-ce que je réussis? Est-ce que c'est une bonne réponse?
On n'avait pas encore rétabli les critères.
Encore une autre fois, le cercle continue. Puis surtout, on veut que vous participez, vous discutez avec nous, puis qu'on veut avoir un échange, parce que nous, on est trois ici, mais vous autres, c'est vous autres qui va nous donner plus d'idées et plus de continuité à notre discussion.
Alors, sur la page Facebook de toute la classe ou par courriel pour toute la classe @gmail.com.
Exactement.
Merci de nous avoir écoutés.
Et à demain, l'autre demain ou l'autre demain après.
Ben, bref, prochain épisode. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Mylène Brassard, Jennifer Davies et Vicky Fauteux. Un remerciement spécial à nos directions au Conseil scolaire Viamonde. Le montage a été fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Paddington Bear. Les dessins du logo ont été créés par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard. À la prochaine!